Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cet été, dans Histoire de savoir, sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, dans Histoire de savoir, donc vous allez pouvoir retrouver des podcasts qui ont été réalisés par des étudiants et des étudiantes en éducation spécialisée de la H2B de Fray. Et donc tout au long de ces écoutes, ils et elles vous feront découvrir le métier de l'éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif, et tout ça à travers différents concepts spécifiques du métier. Alors ça peut aller du mentor en passant par le référent, l'implication ou encore l'engagement. Je vous souhaite un très bel été et une bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast consacré au thème de l'engagement. Aujourd'hui, on va se questionner sur ce que veut vraiment dire s'engager, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans la vie personnelle. Est-ce que s'engager, c'est simplement être présent? Est-ce que ça veut dire aller au bout de soi-même? Ou est-ce qu'il y a aussi des limites à poser pour se protéger et rester dans un cadre juste? Pour lancer cette réflexion, on va partir d'une situation vécue par Estelle. En tant qu'éducatrice stagiaire, elle a été confrontée à des bénéficiaires qui lui demandaient ses réseaux sociaux à la fin de son stage. Une situation qui peut paraître simple au départ, mais qui soulève en réalité beaucoup de questions. Jusque où peut-on aller dans la relation? Est-ce qu'accepter ce genre de demande, c'est une preuve d'engagement? Ou au contraire, un moyen de dépasser les limites entre vie pro et vie personnelle? Et pour montrer que cette question concerne aussi de l'autre côté, on partagera aussi mon vécu en tant que bénéficiaire quand j'ai moi-même demandé à mon éducatrice de l'époque son Facebook. Donc, cela permettra de comprendre que ce besoin de lien peut exister des deux côtés, chez le professionnel, mais aussi chez le bénéficiaire. Dans un premier temps, nous allons donc définir ce que c'est l'engagement. Ensuite, nous irons à la rencontre d'un professionnel afin de confronter la définition relevée dans l'ouvrage « 100 mots pour être éducateur ». Et enfin, nous interrogerons des personnes provenant de tout horizon professionnel pour comprendre comment eux vivent l'engagement dans leur métier, mais aussi des personnes dans leur vie personnelle, selon les parcours, les expériences et les cultures, pour voir comment cet engagement se traduit au quotidien, en famille, à la maison ou dans d'autres rôles de vie à travers des micro-trottoirs. Bonne écoute!
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est présent avec Estelle et Anna qui vont nous expliquer la situation. Je vais commencer par t'interroger toi, Estelle. Donc, je vais te demander de te présenter.
Donc, bonjour, moi je m'appelle Estelle. Je vais vous parler de ma situation vécue en stage cette année. Donc, j'étais en hôpital pédopsychiatrique au domaine, donc avec des adolescents âgés de 12 à 18 ans, avec lesquels j'ai pu établir une relation que je qualifierais de privilégiée, malgré qu'elle soit professionnelle. Et vers la moitié de mon stage, différents jeunes sont venus me demander, étant donné que certains arrivaient à la fin de leur hospitalisation et que moi j'arrivais à la fin de mon stage, si on pouvait s'ajouter sur les réseaux sociaux. Comme c'était la première fois que je faisais face à une situation comme ça ou à une demande pareille, je leur ai demandé d'avoir un peu de temps pour réfléchir à la question. Je pense que ça leur a laissé une petite lueur d'espoir aussi pour avoir une réponse favorable. Mais j'ai fini par leur dire que non, en leur expliquant du coup mes raisons, que par rapport à la confidentialité, aux frontières qu'on était censé respecter, qui pouvaient devenir floues par rapport à la vie professionnelle et personnelle. Et voilà, garder une relation du coup professionnelle et qui ne doit pas empiéter sur mon personnel, que j'allais pas les accepter, que ça changeait en rien que je leur souhaitais. Une bonne continuation à la fin de mon stage bien sûr mais que je préférais ne pas accepter. Et donc cette situation a découlé plein de questionnements sur notre engagement professionnel en tant qu'éducateur. Est-ce qu'on est censé ajouter nos bénéficiaires sur les réseaux sociaux ou pas, pour quelles raisons, Et donc moi j'ai pris le parti de dire que non, que je préférais garder mon personnel bien à moi et rentrer chez moi en mettant le professionnel de côté pour mon bien-être personnel. Et donc ça c'était ma décision à moi. Voilà.
On te remercie énormément Stelle. Sana, toi aussi tu as pu vivre une situation similaire, mais cette fois-ci du point de vue bénéficiaire. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus sur cette situation ?
Alors, moi, pour ma part, je trouvais ça intéressant de pouvoir un petit peu donner mon ressenti sur mon vécu. Donc, moi aussi, j'ai été bénéficiaire avant de vouloir devenir éducatrice. Et alors, j'étais donc bénéficiaire dans une AMO située à XL. Et donc, j'ai fait la rencontre d'éducateurs en qui j'ai créé une relation de confiance, une relation d'accompagnement. Et alors, il y a eu un jour une éducatrice qui m'a annoncé comme quoi elle allait changer de travail et qu'elle comptait faire le tour du monde avec son compagnon. Dans un premier temps, ça m'a fait un peu de chagrin de comprendre que nos liens allaient se couper. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis permis de lui demander si c'était possible d'avoir son Facebook, donc son réseau social.
Intervenir.
Oui, bien sûr que tu peux intervenir.
On t'écoute, Estelle.
C'était quoi le but de la démarche de la demander sur Facebook, enfin les réseaux sociaux, je sais pas quel réseau social tu avais choisi, mais c'était quoi la démarche? Tu voulais entretenir un lien, continuer à lui parler, ou c'était quoi en fait le but derrière ça?
Bah, je pense que sur le moment, je n'avais pas envie de perdre le contact avec elle, le lien. Et alors, je me suis permis de lui demander son réseau de sorte à être un petit peu un petit oiseau sur sa vie, en fait, de voir un peu si ça se passe bien pour elle, si elle est épanouie, et alors qu'à la base, la bénéficiaire. Mais j'avais envie de savoir comment ça allait de son côté, et surtout, j'avais surtout envie de me sentir en confiance si un jour j'ai un souci et que j'aimerais en parler avec quelqu'un en qui j'ai réellement confiance.
Même si en réalité tu savais que tu ne devais pas lui écrire tous les jours, ou c'était quand même dans l'idéal que tu puisses entretenir vraiment une relation, c'était plus par sécurité de l'avoir et de te dire au cas où je l'ai sur les réseaux sociaux et le lien n'est pas rompu totalement, ou c'était plus parce que tu voulais continuer à entretenir, lui écrire régulièrement, etc.
Bah écoute, je pense que dans un premier temps, je ne voulais pas donc arrêter le lien avec elle. Et finalement, le temps est passé. Et je pars dans ma messagerie Facebook, ben je ne lui ai jamais écrit. Et pourtant, elle poste des photos, elle poste des vidéos, et ça me fait plaisir de voir un peu comment elle est. Ça lui arrive aussi parfois de commenter mes photos, de voir un peu comment je suis. Et donc, je pense qu'il y a quand même un lien qui existe, malgré qu'il n'y ait pas de messages qui se sont partagés. Il y a quand même un lien d'amis, en fait, sur Facebook.
Oh, c'est trop mignon.
Donc, voilà. Okay. Et donc c'était quand même assez intéressant de pouvoir parler de cette situation, parce que là, on parle de l'engagement via un réseau social en tant que bénéficiaire. Et par rapport à l'histoire d'Estelle, on parlait de cette situation en tant qu'intervenant social.
Donc, on a deux points de vue pas pareils, quoi. Donc, voilà.
Merci beaucoup pour vos témoignages. Donc pour commencer, j'aimerais bien avoir une petite présentation brève de qui est Monsieur Thomas Gillet.
Alors ici moi Thomas Gillet, j'ai 37 ans, je suis professeur de philosophie ici à Defray, à la Haute École de Bruxelles-Brabant. Je forme aussi à la neutralité et avant ça j'étais professeur dans l'enseignement secondaire.
Alors la première question que j'aimerais vous poser c'est, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de l'engagement ?
Ben, c'est une question assez large, hein, la question de l'engagement. Je dirais que dans le sens commun, ou en tout cas dans la question éducative ou dans la question d'enseignement, l'engagement c'est avant tout le fait de donner du sens et de défendre des valeurs qu'on estime importantes dans la société. Et donc je dirais que l'engagement de manière générale c'est comme ça que je le concevrais, hein. Et donc si on y pense en termes d'éducation, je dirais que l'engagement tel que moi je le conçois c'est construire l'autonomie des plus jeunes, l'autonomie des élèves quand ce sont des élèves, des étudiants, travailler l'esprit critique, apporter des connaissances, être capable de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de capacité capacité de changer d'avis, d'être ouvert sur la société et sur le monde. Donc je dirais que ça, c'est vraiment un engagement général dans le métier d'enseignant que je pratique au quotidien.
Deuxième question, c'est comment vous pouvez définissiez l'engagement dans la relation d'aide?
Ben, de nouveau, je pense que les deux sont liés avec ma définition, avec ma première définition. On s'est aidé de dire, en fait, dans la relation d'aide, on part du principe que quand quelqu'un a besoin d'aide, c'est qu'il y a une forme de vulnérabilité, qu'il y a une forme d'asymétrie, hein, qu'on a une capacité, en fait, d'une certaine manière à aider, à apporter, à répondre à un besoin. Et donc, je dirais que l'engagement, alors de nouveau, il va dépendre d'une personne à l'autre, mais tel qu'il est conçu ici, dans la perspective éducative à Defray, c'est vraiment comment est-ce que mon engagement à l'égard de mon bénéficiaire que j'aide, que j'accompagne, bah, comment est-ce que je le fais en respectant sa dignité, en respectant son autonomie, comment est-ce que je fais pour essayer dans la mesure du possible de le rendre moins dépendant, hein, de l'amener vers plus d'indépendance, parce que l'autonomie, elle a plusieurs facteurs, hein, on a l'autonomie physique, il y a l'autonomie pratique, l'autonomie financière, puis il y a l'autonomie affective, morale, intellectuelle, qui sont différents aspects. Donc moi, je pense que c'est un petit peu tous ces aspects-là que à Defray on essaye de transmettre à nos futurs éducateurs pour que ben, dans la relation d'aide leur engagement soit effectivement au service du bénéficiaire, mais en respectant toutes ces valeurs-là, ces concepts qui sont des éléments fondamentaux pour nous.
Quel risque voyez-vous quand il n'y a plus de frontières entre l'espace pro et l'espace perso?
Ben, le danger, il y en a plusieurs. Je pense que le problème, c'est quand on entretient une confusion, c'est que potentiellement on renforce une forme de dépendance émotionnelle, un investissement qui est potentiellement trop grand, c'est-à-dire qu'on manque de recul. Or, techniquement, les fonctions sont différentes. En fait, l'engagement que l'on a au niveau professionnel, et moi je prends mon cas par exemple, je suis quelqu'un qui, dans son engagement professionnel, accorde une grande importance à la neutralité parce que c'est ce qui va permettre l'égalité et la liberté de mes étudiants. Mais par contre, dans ma vie privée, je suis quelqu'un de très engagé, de très militant, mais c'est important de ne pas entretenir une confusion entre les deux. Les deux fonctions ne sont pas les mêmes, celle de citoyen ou celle d'enseignant, ce ne sont pas les mêmes. Et si on entretient cette confusion, ben, on peut entretenir une confusion des rôles et alors empiéter, effectivement, dans certains cas, et c'est le cas par exemple sur une relation d'aide, sur l'autonomie de notre bénéficiaire dans le cadre de nos fonctions.
Et comment vous pouvez expliquer à un bénéficiaire l'impossibilité de garder le lien sur un réseau social?
Moi, c'est l'explication que j'ai toujours donnée, c'était de dire les moyens d'avoir un lien, ils sont liés à l'institution. Donc c'est l'institution qui va définir, dans l'intérêt du bénéficiaire et du professionnel, hein, de l'éducateur, les moyens d'entrer en contact, les moyens d'avoir du lien, et à partir de ce moment-là, de considérer que les réseaux sociaux, étant généralement l'outil d'utilisation de profils privés, hein, et d'associations d'informations qu'on partage à titre privé, ils entretiennent une confusion entre le caractère professionnel et le caractère privé. Or, le risque de transfert est plus important, et on peut expliquer à des bénéficiaires, alors maintenant évidemment ça dépend de l'âge, hein, mais toutes les mécaniques de dépendance, notamment de dépendance émotionnelle. Il ne faut pas que le lien devienne un lien de dépendance émotionnelle, parce que sinon on passe effectivement à côté en partie du développement de l'autonomie. Donc c'est important, mais c'est important comme éducateur dans la relation d'aide, comme c'est important en tant qu'enseignant. Il faut avoir un lien et un lien structuré avec nos bénéficiaires, avec nos élèves, avec nos étudiants, mais il faut faire attention à ce que ce lien n'entraîne pas une confusion entre vie privée et vie professionnelle, pour les raisons que j'ai déjà expliquées.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé un collègue ou même un étudiant quoi qui vous ajoute peut-être sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça s'est déjà arrivé?
Oui, alors les collègues, c'est encore différent parce qu'il n'y a pas de relation d'autorité ou il n'y a pas de relation hiérarchique. Ça se pose quand il y a des questions hiérarchiques. Ça m'est déjà arrivé au niveau des étudiants et des élèves, et moi, ma position a toujours été très claire. Tant qu'il y a cette relation formelle et institutionnelle, je n'entre pas en relation sur les réseaux sociaux, on s'entend, hein, je ne me connecte pas sur les réseaux sociaux avec des élèves ou des étudiants. Mais par contre, une fois qu'ils sont diplômés et qu'il n'y a plus ce lien institutionnel, ce lien d'autorité, d'évaluateur, etc., qui rentre en ligne de compte, alors pourquoi pas? Alors ça ne doit pas être automatique, mais je pense qu'à ce moment-là, la question se pose en des termes différents, puisque la relation a changé.
Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit.
Est-ce que vous savez un petit peu vous présenter et nous parler un peu de votre contexte personnel ainsi que de votre métier ?
Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, mère de deux enfants, mariée. En tant que carrière professionnelle, j'ai effectué une carrière en tant que péricultrice dans une crèche pendant un peu plus de 7 ans. J'ai acquéri de l'expérience, de la maturité, de l'engagement, de la sécurité et j'étais très épanouie dans ce métier-là jusqu'à ce que mon dos m'a lâché et j'ai dû arrêter ma carrière.
Et quelles ont été votre motivation à pratiquer ce métier ?
Besoin de sécurité, d'affection et les enfants ont été une source énorme d'affection et de sécurité et ainsi que le besoin d'être épanouie. Socialement parlant, professionnellement parlant. Ce métier apporte beaucoup, on le sous-estime, mais il apporte beaucoup. On est au terme d'expérience, au terme de confiance en soi, l'impression de construire les enfants de demain, l'impression de les faire grandir, les voir évoluer, de laisser une trace en eux, une très bonne trace de bienveillance et respect.
Si vous pourriez définir l'engagement vis-à-vis de ces bénéficiaires, donc de ces bébés, comment vous définiriez-vous cela ?
Un engagement en termes d'autonomie, on leur apprend l'autonomie, on leur apprend le respect d'autrui, on leur apprend les démarches, ils deviennent autonomes et ils savent se débrouiller tout seuls. C'est un engagement car c'est sur du long terme. On voit les révolutions de 0 à 3 ans. Tout dépend des groupes dans lesquels on est, mais on les suit dans leur évolution. Et ça, c'est un énorme engagement pour moi.
Ok. Et est-ce que vous avez déjà eu une expérience où vous avez été donc invité sur un réseau social comme Facebook, par exemple, par un de vos bénéficiaires ? Mais là, j'imagine que les bénéficiaires, c'était des bébés ou des enfants. Mais peut-être des parents, peut-être ?
Oui, oui, tout à fait. Les parents, certains parents avec lesquels on a créé un bon lien au terme des 3 ans, à la fin du parcours. J'ai eu droit à des invitations Facebook de par les numéros de téléphone qui étaient sur les groupes WhatsApp, car en tout début de groupe, une fois qu'ils sont bébés, on organise un groupe WhatsApp, on les insère dedans, on partage des photos de la vie de tous les jours. Ils ne peuvent pas y répondre, mais nous, on partage quotidiennement des photos. Et donc, ce groupe WhatsApp est créé, il est suivi pendant 3 ans, et ensuite, une fois qu'ils partent à l'école, le groupe WhatsApp est maintenu un certain temps pour les au revoir et puis il est clôturé. Bah, à ce moment-là, j'ai déjà eu des demandes Facebook via les numéros de téléphone. Et je les ai acceptées parce que le groupe était fini et puis le lien était très fort. Et ça nous permet d'avoir des souvenirs des enfants une fois grandis, des posts Facebook où on les voit à l'école, où on les voit s'épanouir. Et ça nous fait du bien de voir comment ils sont devenus après certaines années.
Selon vous, l'engagement alors peut durer même dans le temps et dans le futur ?
Oui.
Ça ne concerne pas uniquement un engagement professionnel, mais ça peut découler dans un engagement qui dure toute la vie, finalement.
Oui, oui, oui. J'ai eu un groupe où les parents avaient, de leur initiative, créé des moments après leur départ, une fois qu'ils étaient à l'école. On se voyait dans des restos dînettes, des cafés poussettes, et on papotait, parce que le lien était tellement fort qu'on avait gardé ce lien affectif qui était devenu très amical et cordial.
Et alors, j'ai entendu que vous disiez comme quoi vous avez arrêté votre carrière professionnelle par rapport à votre dos. J'avais une petite question. Selon vous, vous avez uniquement donc l'engagement familial vis-à-vis de vos enfants et de votre mari. Selon vous, c'est quoi l'engagement familial ?
Effectivement, j'ai arrêté ma carrière vis-à-vis de mon dos et pour préserver surtout mon dos, parce que c'était la sonnette d'alarme. Si je continuais, j'allais tout droit vers les douleurs qui s'accentuaient. Et notamment, je me suis mariée, j'ai fondé ma petite famille et donc cet engagement professionnel est devenu un engagement familial vis-à-vis de mes propres enfants. J'ai su retrouver ce lien qui me passionnait avec mon métier, mais il a été multiplié par 10 000, voire 100 000 meilleurs moments de toute ma vie, parce que c'est des choses qui dépassent même la carrière professionnelle. C'est le fruit de vos entrailles qui évoluent et c'est magnifique, c'est incroyable. C'est une expérience qu'on ne vit que quand on le vit. Et voilà, donc j'ai su retrouver cet épanouissement que j'avais en carrière de manière familiale.
Et sentez-vous vous épuisé par cet engagement-là ?
Parfois oui, parfois il m'arrive de me sentir épuisée, mais je suis épaulée par mon mari. Ce qui est important, c'est que dans cet engagement familial, on n'est pas seul. Ça, c'est important de le dire et c'est important de le savoir. C'est qu'on n'est pas seul, il y a notamment notre mari, il y a des aides, il y a des associations, il y a des moyens mis en œuvre. Maintenant, il faut les connaître, ces moyens. Ben, on a l'ONE qui est derrière nous après l'accouchement, donc ça, on a un suivi qui est très important qui est très soutenu. Maintenant, à vous, à le prendre ou pas, ça dépend de la personne. Moi, j'ai eu l'épaule de mon mari et qui m'a été d'une très grande aide psychologique, physique, affective. Donc voilà, donc c'est à nous à prendre les moyens qui sont bons pour nous.
Et comparé à un professionnel, pensez-vous qu'il y a aussi des limites à poser?
Dans ma carrière professionnelle ou ma carrière, mon engagement familial?
Comparé à un professionnel, est-ce que vous pensez qu'il y a des limites à poser en tant que mère de famille au niveau de l'engagement?
Des limites pour penser à soi, oui. Pour penser à soi, oui. Et pas toujours penser, même si je sais que c'est très difficile, mais à un moment donné, il faut savoir penser à soi, déléguer. C'est très important de déléguer et de ne pas se sentir impuissante, de ne pas se sentir délaissée. Donc toujours déléguer, c'est important. Mettre des mots sur ce qu'on ressent. Écoutez son corps, parce que si vous, votre corps lâche, il y a tout qui vous lâche. Donc c'est important de trouver des moments à soi, de se trouver une activité, de déléguer, de voilà, je le redis, écoutez son corps.
Super, ben en tout cas, merci de m'avoir donné de votre temps.
Donc bonjour, dans le cadre de notre dernière année en tant qu'éducateur spécialisé à l'école de Fray, pour le cours de médias, nous sommes amenés à faire un podcast sur le thème de l'engagement. Et donc pour ce faire, nous avons décidé de réaliser quelques petits micro-trottoirs et de poser quelques questions. Si vous êtes d'accord de participer, nous allons vous les poser.
Mais bien entendu, je suis disponible, dites-moi.
Alors, la première petite interrogation, c'est pouvez-vous vous présenter, donc votre métier, avez-vous des enfants, donc voilà, présentez-vous si vous...
Voilà, je suis directeur d'auto-école, j'ai plusieurs entreprises que je dirige depuis de nombreuses années. J'ai deux enfants qui sont adultes et une épouse merveilleuse pour m'accompagner dans ma vie.
Ok, super. Donc, par rapport à notre thème qui est l'engagement, je vais vous poser une première petite question. Donc, qu'est-ce que l'engagement professionnel signifie pour vous dans votre métier et avez-vous un exemple?
Ah oui, l'engagement, d'abord, quand je parle d'engagement professionnel, je pense d'abord à motivation, je pense à ascenseur social et je pense également à beaucoup, beaucoup d'abnégation, mais de volonté et d'endurance pour pouvoir arriver à mettre finalement ma famille à l'abri, puisque l'engagement qui me concerne était principalement destiné à les préserver de la vie future.
Merci. La prochaine question, est-ce qu'il y a un moment dans votre parcours où vous avez senti que vous étiez trop engagé émotionnellement? Parcours professionnel, du coup.
Oui. Il y a quelques années de ça, mon épouse a eu un accident de vie en 2020. Et depuis lors, j'ai pris conscience qu'il était important pour notre avenir commun de peut-être remettre la vie familiale au centre de notre vie et de faire en sorte que finalement, le travail ne soit plus qu'un moyen pour pouvoir profiter plus longuement des miens.
Okay. Comment fait-on pour rester engagé sans s'oublier soi-même et en entretenant une juste distance? Au niveau professionnel, par exemple, quand vous étiez moniteur d'auto-école avec un élève?
J'ai pas la recette parce qu'en fait, j'ai jamais réussi, entre guillemets, à véritablement trouver le bon équilibre entre ma personne, mon bien-être et mon rôle de chef d'entreprise. L'évolution que j'ai entretenue dans ma vie professionnelle a été telle que ça a été, durant toute ma carrière, des sacrifices. De sorte que finalement, c'est un accident de la vie qui m'a rappelé à l'ordre et qui m'a permis peut-être de prendre une autre direction.
Ok, dernière petite question. Pensez-vous que l'engagement est quelque chose qui s'apprend ou qui s'améliore avec l'expérience?
Certainement que l'expérience permet de temporiser cette volonté et cet ascenseur social. C'est certainement que l'expérience amène peut-être à mieux doser ce difficile équilibre entre la vie professionnelle et l'équilibre qu'on doit avoir dans sa vie personnelle. Mais ce double équilibre à trouver est une science qui est en permanence en évolution. Et effectivement, l'expérience amène, entre guillemets, son lot de difficultés, de bonheur, mais aussi de barrières parfois infranchissables. Et ce n'est qu'avec énormément de volonté qu'on peut arriver à les surmonter. Donc oui, certainement, l'expérience aide énormément dans cela.
Ok, ben merci beaucoup.
Bonjour. est-ce que vous savez un peu nous parler de vous et de ce que vous faites dans la vie ? Et vous présenter aussi.
Donc bonjour, moi c'est Menel, je suis éducatrice spécialisée, je travaille dans une école secondaire à pédagogie active. Je suis là depuis une dizaine d'années, donc 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai ce poste-là. Je travaille principalement avec le 3e degré, donc les 5e, 6e. Et ça m'est arrivé durant ma carrière de travailler avec les plus jeunes.
Et quels sont vos engagements à exercer ce métier ?
Bah écoutez, moi j'ai choisi le métier d'éducatrice spécialisée parce que donc j'adorais le côté un peu psychologique et accompagnement à la personne. Au départ, j'ai suivi ces études au feeling, mais j'en suis tombée réellement amoureuse parce que j'ai compris qu'il y avait, c'était plus qu'un métier. En fait, c'est une philosophie de vie et surtout que notre personne, c'est notre outil de travail. Donc voilà, on évolue en fait tout le long de notre carrière. C'est un métier ultra vivant et tellement qui peut être tellement différent d'un public à un autre que voilà, c'est une façon de voir la vie.
Pourquoi ce public et pas un autre ?
Alors initialement, j'étais pas faite pour travailler avec le public des jeunes adolescents. J'ai voulu tester d'autres secteurs, mais voilà, la chance a fait que j'ai trouvé ce poste-là dans une école à pédagogie active et j'y ai vu non seulement un poste d'éducateur, mais aussi un poste qui évolue avec le temps et un poste tout à fait actuel parce que les écoles à pédagogie active sont très récentes et sont en évolution constante. Donc voilà, j'ai préféré y rester et j'apprécie énormément le poste.
Et par rapport à la relation avec vos bénéficiaires, est-ce que vous savez nous dire un petit peu comment l'engagement se vit au quotidien ?
Bah écoutez, moi, depuis que j'exerce le métier d'éducatrice spécialisée, j'apprends à me connaître. J'ai évolué dans ma posture professionnelle, mais j'ai toujours gardé un certain lien d'affection avec mes bénéficiaires. J'ai toujours su prendre aussi des choses et apprendre des choses de mon public, autant que je peux leur en apporter. Je suis énormément dans l'écoute, dans l'empathie, dans la discussion, dans l'échange aussi énormément. J'aime bien avoir cette posture d'apprenant aussi et de sentir que en fait ils m'apportent autant que je leur apporte. C'est la partie la plus satisfaisante de mon métier.
Ok. Bah écoutez, merci pour le partage. Alors j'aimerais continuer avec une dernière question concernant les réseaux sociaux. Est-il concevable d'accepter une demande Facebook de la part d'un ou d'une de vos élèves ? L'avez-vous déjà fait ? Et quels ont été les risques ou les résultats selon vous ?
Alors, je suis totalement... c'est totalement le sujet... De mon environnement de travail, en fait, je travaille avec des jeunes, d'autant plus que ce sont des jeunes du 3e degré, donc c'est les grands, c'est ce qu'on appelle les grands. Donc
ils ont quel âge ?
Ils ont entre 17 et 19 ans, et parfois même 20 ans chez moi. Voilà, les réseaux sociaux, c'est tout à fait actuel, c'est la manière la plus simple pour eux d'aborder les gens, les camarades, mais aussi les membres du personnel. Ils ont aussi cette curiosité de se dire, en fait, derrière l'éducateur ou l'enseignant, il y a aussi quelqu'un qui a une vie, donc il y a cette curiosité constante. On me demande très très souvent si j'ai par exemple Instagram, Facebook, enfin beaucoup moins Facebook, plutôt Snapchat. C'est une question qui revient énormément. Je n'ai jamais, moi pour ma part, je n'ai jamais accepté de demande, même si on m'en a déjà fait, parce que je trouve que c'est quand même de l'intime. En fait, ça revient à l'intime que de partager sa vie privée avec nos jeunes. Et puis je trouve que voilà, c'est quand même garder une certaine distance, garder son petit, entre guillemets, son petit jardin secret. C'est quand même important de leur inculquer aussi que toutes les informations ne sont pas bonnes à donner. Et il y a aussi le côté, voilà, où je leur dis, dans quelques années, vous serez plus aux études. Si vous le souhaitez encore, moi, rien ne m'empêcherait de vous donner mes contacts, mon numéro de téléphone ou mon Instagram à ce moment-là. Je trouve que c'est beaucoup plus sain. C'est aussi leur apprendre qu'il y a une limite, en fait, et que la limite du privé, bah, c'est celle-là.
Et une dernière petite question. Jusqu'où un professionnel, il peut s'engager dans la relation sans franchir la frontière professionnelle et personnelle ?
Moi, je trouve que la limite, bah, les réseaux sociaux, ça fait partie de la limite.
Okay.
Ne pas inviter les jeunes à se rendre dans un lieu... que l'on fréquenterait en dehors de l'école, par exemple.
Okay. Votre témoignage.
Je vous en prie.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Pour conclure, nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à notre podcast et de partager leur expérience avec nous. Grâce à leurs témoignages et à leur point de vue, nous avons pu mieux comprendre les différentes formes d'engagement et les limites qu'il peut y avoir. L'engagement peut prendre différentes formes selon les personnes et les situations, mais qu'il soit professionnel ou personnel, il demande toujours de trouver un bon équilibre entre implication, respect et limites. Merci pour votre écoute.
Sous mon soleil bleu.